Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et nous sommes ensemble, vous le savez, tous les samedis. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis. Eh hey, tiens, notre ami Maxime, on le cite pas assez, notre ami Maxime, ça va mon Max. C'est lui qui tient le volant de sa roule tous les samedis matins sur Sud Radio. C'est Monsieur Réalisation. C'est le seul qui a le permis. Non, je l'ai aussi. Moi, salut mon Pierre.
Ça va Lolo?
Oui, ça va bien. Salut mon gars.
Bonjour à tous.
Et c'est parti pour la sixième année, puisque nous avons fêté les 5 ans. Donc nous rentrons dans la sixième année de Ça Roule.
Je suis retombé Lolo sur les photos d'il y a 5-6 ans.
T'as vu, on était jolis. Hein
ben non, mais c'est pas ça qui m'a inquiété. C'est que j'avais tous mes cheveux. Alors que là, en étant tout à fait honnête, si on regarde par au-dessus, puis vu que je suis très grand, bah, ça
et
se
pas,
voit.
Ouais,
hein.
Pas
ben non seulement il y a un petit trou qui commence à apparaître, mais en plus, je sais pas si t'as vu, c'était tout blanc.
Ouais, c'est beau, un homme qui a des cheveux poivre et sel.
Ouais.
C'est très très beau.
C'est pas le cas de notre ami Fabrice Gosse.
Ouais, il est très très beau, Fabrice, mais il fait une couleur, je suis sûre.
Non, mais non, c'est nature.
Alors, Fabrice,
c'est comme la teinte des bagnoles, en fait, c'est dans la masse.
Je suis beaucoup plus jeune que vous, c'est pour ça.
Monsieur Mobilité sur 40 millions d'automobilistes, et avec lui, on va évoquer le sujet dont on vous a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous étiez avec nous. Nous avons eu un coup de téléphone la semaine dernière d'un d'entre vous, puisque vous pouvez réagir cette émission et la vôtre sur Sud Radio, 0826 300 300. Parlons vrai ensemble. Et quelqu'un d'entre vous nous a dit: ouais, la voiture, la polluante, il faut arrêter,
il
tout le monde doit
plus
s'y
de
mettre
pique.
Patati patala. Et là on s'est dit, allez, on va faire une émission pour factuellement savoir où on en est aujourd'hui en France et dans certaines grandes villes. Oui ou non, en gros, la voiture est-elle la seule à polluer? Est-ce qu'il y a des améliorations ou pas? On en parlera en détail avec notre ami Fabrice. Mais pas seulement, on va recevoir aussi un super ami, Théo, à midi.
Mamma mia, Teodoro Bartuccio, c'est notre cycliste préféré qui sort un livre qui porte le nom de son association, Mon vélo est une vie. Et dans ce livre, il tente quelque chose d'assez sympa. Il tente de réconcilier les usagers, c'est-à-dire
c'est
d'envoyer un
ça.
Message et un symbole de paix sur la route. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment et j'arrive à comprendre parfois les automobilistes de leur côté qui se disent « c'est pas possible, on nous prend des espaces, on a de moins en moins d'espaces de circulation, donc il y a des bouchons ». J'arrive aussi à comprendre du côté des cyclistes qui disent « mais ouais, mais vous êtes gentils, mais moi j'ai besoin d'aménagement, quoi. Je peux pas non plus rouler comme ça au milieu des voitures, c'est hyper dangereux ». Et en fait, tous ces intérêts sont politiquement orchestrés pour créer des oppositions. L'idée de « Mon vélo est une vie » Teodoro Bartuccio, c'est de rassembler tout le monde, et ça j'aime bien.
Il viendra nous parler de son livre à partir de midi, et puis nous irons faire un petit tour du côté de Rétromobile, voir un peu ce qui se passe et ce qui va se tramer sur le dernier week-end. Et puis un nouveau rendez-vous que l'on vous donne dans Ça Roule, ce sera juste avant midi, aux alentours d'ailleurs de midi moins 7, moins 8 pour être tout à fait précise. Allez, 11h53 exactement, où nous allons recevoir Jean-Michel Lenné, qui est un spécialiste de la moto. Vous avez, messieurs et mesdames, les motards et motardes, votre rendez-vous, et là il sera question d'un essai de BMW Moto, et ce sera l'un des nouveaux rendez-vous. Mais tout de suite, ce que je vous propose, moi, c'est évidemment de saluer Aude, qui est au téléphone et qui vous accueille au 0826 300 300. Salut ma belle. Et puis de tout de suite faire un point sur l'actualité de la semaine with Gaspar.
On commence par une enquête du site Caradisiaque qui va vous faire plaisir, Pierre, puisqu'elle concerne votre meilleure amie Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alors vous le savez, notre chère Anne est la meilleure pour nous donner des conseils et avoir de bonnes idées. Fermeture des voies sur berge, suppression de 60 000 places de parking, les pistes cyclables c'est génial et j'en passe, sauf que figurez-vous que selon l'enquête de Caradisiaque, notre chère Anne, se déplace qu'en voiture, alors électrique certes, mais on constate que le métro finalement très peu pour elle. Durant ces quelques semaines, le site spécialisé donc l'a suivi et on fait un constat qui peut prêter à sourire. Déjà, on ne peut pas dire que ses chauffeurs soient très en place avec le code de la route. Le site l'a même pris en flagrant délit de passage interdit. Mais ce que préfère la maire de Paris et ses chauffeurs, ce sont les stationnements gênants. Dans la majeure partie du temps, ils se garent sur la voie de bus, la chaussée ou les places interdites. Pierre, c'est cadeau, c'est pour vous.
Ouais, ben, moi j'ai dit on va se concerter avec Fabrice Godefroy, mais je propose un truc, on va peut-être lui créer un statut de membre d'honneur de 40 millions d'automobilistes à Anne, parce que vu qu'elle conduit certainement même plus que nous dans Paris, finalement peut-être qu'on peut imaginer un truc, c'est peut-être ça aussi, peut-être ça la rend tellement hargneuse d'être dans les bouchons qu'au final, je sais pas, ou alors elle a un passe-droit.
C'est clair, mais je crois que cette étude a été déjà ressortie il y a quelques mois, quelques années, et je crois que vous avez même invité la journaliste qui s'en est occupée, là, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais.
Et effectivement, c'était une enquête qui était très intéressante.
Elle s'appelle Stéphanie Fontaine et c'est le poil à gratter un petit peu.
Ouais, bien,
quand vous êtes politique et vous faites des grosses déclarations comme ça, faites gaffe qu'il n'y a pas une Stéphanie Fontaine derrière
vous. Et d'ailleurs, vous avez eu aussi Ségolène Royal cette semaine, on lui a posé la question de savoir si elle roulait en véhicule électrique. Elle a dit, non, moi je roule pas en véhicule électrique, je roule qu'en taxi. Vous l'avez pas vu?
Si, c'est joli ça.
Ouais. Les voitures qui sont sur les routes françaises continuent de vieillir. C'est l'enseignement que l'on peut tirer du dernier communiqué d'AADATA qui analyse depuis plusieurs décennies des données dans de nombreux secteurs. Actuellement, l'âge moyen du parc serait de 10,6 ans contre 9 ans en 2017. On apprend également que certaines régions comme l'Ariège ou la Creuse qui ont jusqu'à 8% de véhicules datant de 1997, des autos qui seraient actuellement interdites de circulation dans les grandes villes avec la vignette Crit'Air. Autre donnée intéressante sur les automobilistes en France, dans les Hauts-de-Seine et à Paris, respectivement, 32 et 26% du parc roulant est composé de véhicules professionnels contre 7,3% pour la moyenne nationale.
Voilà, faut interdire les pros.
Un chiffre qui illustre parfaitement le problème très français de la centralisation à Paris et des véhicules de société immatriculés dans les départements du siège de l'entreprise.
Voilà, il n'y a plus qu'à interdire les professionnels. Ou alors on interdit. De toute façon, la mode, c'est d'interdire. Des fois, je me lève le matin et j'ouvre le journal et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est interdit aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, hein. Regardez autour de vous et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a toujours cette impression que chaque matin, on va se lever avec une nouvelle interdiction, une nouvelle restriction, quelque chose comme ça qui arrive. Je crois que c'est vraiment notre lot quotidien. Alors, en tant qu'automobiliste, c'est magnifique. Ça va peut-être se calmer hein, depuis que quelqu'un est parti de son poste. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai mon petit doigt qui me dit qu'on va en parler bientôt.
Une étude qui nous vient du Royaume-Uni montre qu'une très large partie des automobilistes sondés préféraient payer un péage urbain à l'entrée d'une grande ville tous les jours plutôt que de prendre un transport en commun. De là à penser que c'est la même chose en France, il n'y a qu'un pas. Il suffit de constater l'étude dont je vous ai parlé la semaine dernière sur les heures que les Français perdent dans les bouchons pour démontrer que les automobilistes ne sont pas prêts de lâcher leur voiture. Selon le responsable de la politique routière chez l'Automobile Association, la majorité des constructeurs considèrent que l'amélioration de la qualité de l'air est importante, mais que le confort de la voiture dépasse le problème de payer des taxes pour rentrer en ville.
J'ai envie de dire, de toute façon, on achète une voiture par rapport à nos besoins. Quand t'es en famille, t'as 3 enfants, bon, on peut essayer la Twingo quand on n'a pas beaucoup de sous, évidemment, bien sûr, mais c'est quand même un petit peu plus confort si on a les moyens de pouvoir basculer sur un véhicule un petit peu plus haut de gamme qui nous permet de transporter un peu plus de bagages avec un peu plus de confort et de sécurité. Parce qu'il y a un truc qui me fait marrer, moi, on va peut-être en parler dans notre sujet pollution, mais quand on voit sur les routes, alors je blâme pas ceux qui font ça, moi aussi j'étais jeune, j'avais pas les moyens et puis je chargeais la Fiat Panda et je partais. Les suspensions à l'arrière étaient tellement écrasées qu'on avait l'impression que la voiture elle allait décoller en fait. Donc c'est hyper dangereux. Je crois que ce qu'il faut, c'est le véhicule adapté à chaque famille.
Voilà. Donc, comme par exemple celui qui vient d'acheter la super Ford Mustang de Johnny qui a été vendue 244 000 euros hier sur le Rétromobile.
Oui, oui.
En direct avec les enchères d'Arcurial, ouais, ça fait rêver. Hein. Bon, ceci dit, on en parlera de Rétromobile tout à l'heure.
Pour faire je ne sais pas s'il y avait une guitare dans le coffre.
Mais je ne sais pas. Qui l'a démangé? J'ai la guitare qui me démange. Bon, allez, c'est parti. 11h11, dans quelques instants. On va parler des 48 000 morts par an dus à la pollution, soi-disant. Alors, voiture ou pas voiture? On va faire un
bien.
État.
Ça commence bien.
Ça commence bien.
Allez. On va parler d'un état factuel des choses et vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Est-ce la voiture qui est à l'origine de toute la pollution de nos villes? Vous êtes les bienvenus, que vous soyez plutôt contre la voiture à cause de ça, plutôt pour. Notre spécialiste vient factuellement, vous verriez l'état de son bureau là, il a toutes les preuves, toutes les études. Voilà, bah oui, non, allez, restez avec nous et surtout venez nous rejoindre 0826 300 300, ou même sur Sud Radio, la page Facebook, où je lirai vos réactions. Et on en profite pour embrasser tous ceux qui viennent nous dire bonjour régulièrement hein, sur le Sud Radio. Stéphane, salut. On a aussi Fatima qui est avec nous déjà. Voilà, on vous fait des gros bisous. Sandra aussi qui arrive. Et à vous tous, à tout de suite sur Sud Radio. Et...
Sud Radio. Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et notre premier sujet aujourd'hui, on va rentrer dans le dur tout de suite, car il ne faut pas laisser le temps passer. 48 000 morts par an qui seraient dus à la voiture, à la pollution. La pollution, elle, due à la voiture. Vrai, faux, on va en parler en détail. Le rôle de la voiture, à mon Gaspard, avec vous évidemment, mais avec Pierrot aussi, et surtout avec notre invité, Fabrice Godefroy. Bonjour de nouveau.
Bonjour à vous tous.
En fait, la grosse difficulté dans ce dossier de la pollution, c'est qu'on a fini par transformer ce dossier de la pollution. On a annexé l'idée de pollution à voiture. C'est-à-dire, quand c'est tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qui pollue dehors, on te répond ah ben la voiture. Mmh. On oublie que, tiens, regarde le studio, ben, on a des lampes, on a des micros, on génère des connexions par la radio, tout ça, ça a un bilan carbone, c'est pas neutre. Toute activité humaine pollue. Après, c'est invisible. C'est une pollution invisible qu'on perçoit pas tout de suite. Donc, le job des politiques, ça a été de nous dire pollution égale voiture. Une fois que ça s'est fait, ensuite, il y a un monde manichéen qui se met en place où d'un côté, tu as le monde du bien, j'ai un vélo, j'ai pas de voiture. Et de l'autre côté, t'as le monde du mal incarné par nous, hein, Fabrice.
Tout à fait.
On a une voiture et du coup,
l'antéchrist.
On se fiche de ce qu'on peut faire à côté. On a le beau faire du vélo avec nos mômes, se promener à pied, faire ce qu'on veut. Nous, c'est fini, on est excommuniés.
Juste, je voulais juste rappeler qu'on a décidé de ce sujet, Pierre, souviens-toi, parce que samedi dernier, on a Benoît qui est intervenu au 0826-300-300 en attaquant la voiture et il avait la sensation d'avoir tout compris. C'était effectivement la voiture. Alors, de notre point de vue aujourd'hui, on ne va pas porter de jugement.
Non,
on va pas dire
que
nous, on sait que les autres ne savent pas, ce n'est pas vrai. On va être factuel. On est d'accord.
Alors,
factuellement.
Un détail près, c'est que par contre, dans le message de Benoît, qui était très sympathique, hein, Benoît, il n'était pas là pour être dans
et
une
polémique
vaine.
Et puis d'ailleurs, s'il
veut
le rappeler, il peut. Hein.
Moi, je me souviens, bon, il avait juste des idées, mais le problème, c'est qu'en fait, il répétait des choses qu'il a entendues, qu'il a vues, parce que c'est partagé partout, sauf qu'au final, on creuse pas. Alors, on va prendre le premier sujet, Fabrice, parce que celui-là est très important. C'est celui qui concerne les fameux pic de pollution. Il y a quelques années, on est à peu près, on est en 2014, on vit une période de pic de pollution avec beaucoup de pics, sur Paris notamment. Alors, il y a la même chose dans le nord de la France, mais vous savez, ça n'intéresse pas les médias, c'est le nord, ce qui intéresse, c'est Paris. Donc, à ce moment-là, on est en pleine campagne municipale et bim, le sujet tombe, on parle de pic de pollution. Aujourd'hui, bizarrement, on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pic ?
Alors, il y a deux choses. Alors, effectivement, il y a une multiplication des rapports sur la pollution qui fait qu'on a le sentiment que la pollution se dégrade, ce qui n'est pas le cas. Quand on voit toutes les courbes, que ce soit d'Air Paris, de l'ADEME, du CITEPA ou autre, on voit que toutes les courbes sont en baisse. Et par rapport, effectivement, à ce que vous avez d'ailleurs abordé la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'en octobre 2011 exactement, il y a eu, vous savez, il y a les évolutions de pics de pollution, les seuils d'alerte de pic de pollution. Et personne ne l'a véritablement noté, mais en octobre 2011, on a eu une baisse de ce seuil de pic de pollution qui est passé de 125 microgrammes par mètre cube à 80 microgrammes par mètre cube pour le seuil d'alerte de pollution.
Tous les microgrammes, pas bien, quoi.
C'est-à-dire que quand on a, vous savez, un pic de pollution, on déclenche un système de restriction, par exemple automobile. Et ce système-là, ce seuil, a été abaissé de plus de 35% en 2011, de 125 à 80. Donc effectivement, en 2011, on a eu l'impression qu'il y avait plus de pics de pollution parce que le seuil d'alerte a été abaissé. Et ça, on ne l'a pas forcément noté. Et depuis, pourtant, ça s'est largement régulé. Donc il y a un gros décalage
entre... Oui, mais
entre...
alors, excusez-moi, je vous coupe la parole. Ce seuil de pollution, il a été baissé parce que... On le voit, les courbes de pollution ont particulièrement baissé. C'est le livre blanc
du CNPA,
du Conseil national des professions de l'automobile, qui a été remis en janvier 2020.
Tout à fait.
Et alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, je vais le mettre juste à côté du micro. Mais alors, vous, voilà, on peut se le procurer hein, d'ailleurs, ce livre blanc.
Sur Internet aussi.
Sur Internet. On voit que toutes les courbes de pollution descendent. Donc, la question est, puisque ça descend, du coup, ils redescendent encore.
Oui, mais c'est logique. C'est logique.
Et d'ailleurs,
c'est normal. Sauf que dans l'esprit des gens, quand on n'a pas forcément cette information-là, quand on voit une recrudescence de pics de pollution alors que le seuil d'alerte a été abaissé, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors qu'en fait, la qualité de l'air s'est améliorée. On est allé très loin avec le CNPA et on est remonté à 30 ou 40 ans, par exemple, sur les particules. On s'aperçoit que ça a été divisé par 20 au niveau des particules. Donc on voit bien qu'il y a une amélioration. Alors tout ne s'améliore pas parfaitement.
Pas pour ça qu'il ne faut pas continuer
bien
d'améliorer.
Il ne faut surtout pas avoir un positionnement sceptique par rapport à la pollution. La pollution, elle est existe. Effectivement, il faut lutter contre cette pollution. Le seul problème que l'on a, et Pierre le dit très bien, c'est que souvent, on l'attribue à un seul secteur automobile. Et ça, c'est le problème. Ouais. Vous parliez des 48 000 morts par an. Je peux pas ne pas rebondir là-dessus. Parce que vous voyez, je le laisse, ce rapport. Parce que la plupart du temps, quand on est en débat là-dessus... Vous le savez très bien, Pierre. On l'a. On se tutoie d'habitude. Il faut que j'arrête. Donc effectivement, on l'a à chaque fois quelqu'un et à chaque fois on nous balance. Oui, mais par exemple, le diesel tue 48 000 morts par an. Ouais. On l'entend à
par
chaque débat.
Par assimilation directement.
Tout à fait. Ouais, mais c'est pas ce que dit du tout le rapport. Ce rapport de Santé Publique France qui est sorti en 2016.
Santé Publique France. Là,
Santé
on est
Publique
pas
France.
Sur...
Vous pouvez le retrouver sur Internet. Ce rapport. Il est très intéressant et il parle de la pollution atmosphérique dans son ensemble. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la partie automobile. Et en plus, ils l'ont fait sur un polluant. C'est les particules PM2.5 qui sont les plus petites particules qui sont pour l'instant contrôlées. Et ce rapport, il est basé là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pas des morts liées à une autopsie. C'est des morts prématurées et selon des calculs où il y aurait une réduction de vie de 6 mois, 7 mois, jusqu'à 2 ans, c'est bien marqué sur le rapport, lié à la pollution atmosphérique. D'ailleurs, dans un monde où on vit de plus en plus longtemps. Donc on voit bien que ça s'améliore aussi. Et c'est vraiment la pollution atmosphérique dans son ensemble. Et quand je prends les PM2.5, je ferai un parallèle par
qu'est-ce
exemple
que
derrière.
Qu'est-ce que c'est les PM2.5
C'est les particules fines, les plus fines.
Alors, c'est pas mesurables. Mesurables actuellement, parce que maintenant on parle des nanoparticules. Toujours pareil, on va descendre le curseur. C'est-à-dire que maintenant les particules PM10, PM2.5 sont en baisse. Donc maintenant on va commencer à parler des nanoparticules, parce que justement, il va falloir qu'on affine pour la pollution. Et donc je rebondis sur ces PM2.5 par rapport à Santé Publique France et je prends donc un rapport qui est très intéressant du ministère de la Transition écologique et solidaire qu'on peut retrouver qui s'appelle « Mieux respirer, c'est l'idée ». Alors, et dans ce document-là, on a la répartition des polluants par secteur. Et
ouais,
je prends
intéressant.
Les
donc, la voiture.
PM2.5. Alors ça, c'est au niveau national, ouais. Parce qu'après, je peux le faire au niveau de certaines villes, et notamment Paris.
On a du monde aussi au téléphone. Hein,
donc au niveau national.
On y va.
Je finis là-dessus. Donc les PM2.5 au niveau national, le transport, les PM2.5, c'est marqué noir sur blanc, correspond à 17%. Le transport.
Attention.
C'est pas l'automobile. C'est pas que l'automobile.
Transport.
C'est tout.
Enfin, alors après, il faut être hyper honnête. Les oxyde d'azote, c'est la moitié, c'est le transport. Ok, ça c'est clair.
Bon,
et puis les particules,
Charles.
C'est 17%.
Il a le téléphone, il a Toulouse, Charles. Non, parce qu'en
il
plus...
attend, Charles attend.
Oh non,
826, 300, 300. Ça va, Charlie?
Bonjour, Charles.
Oui, bonjour, Laurence, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Bon, écoutez, moi, les extrêmes, j'aime pas ça. Et puis bon, maintenant, on va faire une association pour tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Les cyclistes, bientôt, on va faire pour les piétons, bientôt,
c'est
on va
fait.
Faire.
C'est fait, ça existe. Blondes, il est sympa, d'ailleurs.
Comment ?
Il est sympa. Il y a un gars qui a fait 40 millions de piétons ou 60 millions de piétons, je sais plus comment. Il est très gentil. Il fait une association de défense des piétons. Il est plutôt sympa comme gars. Mais je vous entends.
Non, mais bon, au bout d'un moment, bref, moi, les extrêmes, c'est, j'ai jamais aimé ça, ni les clichés, ni les extrêmes. Je dis pollution, rien que quand on va dans une grande surface et tous les emballages qu'il y a, rien que dans les yaourts, dans les machins, je dis bon. De là à dire que c'est comme la clope, c'est pareil, c'est la clope ou la voiture, l'assassin de tout le monde. Bon, moi je veux bien, mais bon, bref. Ceci dit, vous les automobilistes, vous les personnes voyantes en général, je dis voyantes visuellement parce que je suis malvoyante, vous me faites sourire quand même parce que vous êtes incapable de faire 500 mètres à pied.
Si, je vous rassure. Hein.
Oh, si.
Bah, écoutez,
Charles, moi, des fois, je fais 12 km. Déjà, Charles, juste une chose.
Faut pas caricaturer.
Oui, puis c'est surtout que les Parisiens sont les plus grands marcheurs de France. Les Parisiens sont les plus grands marcheurs de France parce que beaucoup prennent les transports en commun, en intramuros. Hein, et les dernières études qui prouvent que ce sont les Parisiens qui marchent le plus. Surtout au mois de décembre quand il y a les grèves.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai, Charles. Hein, le Parisien marche beaucoup parce qu'il prend beaucoup le métro. Enfin, intramuros, hein,
non,
j'entends.
Mais j'entends ce que dit Charles. Charles, oui, il dit voilà, il ne faut pas tomber dans la dépendance.
D'accord, mais je veux dire, il n'y a pas que Paris en France.
C'est parce que vous dites, vous, les bienvoyants, vous ne marchez pas. Si, quand même.
Si, ouais.
Après, moi, je veux pas, c'est pas pour faire ma victime ou je ne sais quoi, non. C'est pas le souci, mais je dis juste que moi, les personnes voyantes que j'ai connues dans ma vie, bah, souvent, pour 500 mètres, on prend la bagnole.
Ah oui, mais ça peut arriver. Non,
Charles,
mais on est
vous savez, c'est aussi le fait d'un pays de liberté où, dans
bien
lequel
sûr.
On peut avoir le droit. Moi, je vous donnais un exemple. Ben, mon père, quand il va chercher son bois au garage, ben, comme il en ramène pas mal à la maison, il remplit le coffre de la voiture, il fait 800 mètres, 800 mètres en retraite.
Oui, mais là, c'est un exemple sur le bois.
Il va pas mettre les bûches sur le dos.
Merci, Charles. Merci beaucoup d'être intervenu.
Moi qui habite moi qui habite à Paris, je vous garantis que j'ai certainement pas envie de prendre ma voiture quand je me déplace dans Paris.
Bah non,
certainement pas, parce que déjà, on peut plus garer.
C'est pareil pour Montpellier, etc. Les gens marchent beaucoup.
Le seul problème de la voiture, c'est que souvent, on en a besoin pour aller travailler. Quand on fait du Paris-banlieue, banlieue-Paris, c'est compliqué de le faire aussi.
Et banlieue-banlieue, revenons sur la pollution.
Il y a quand même des trucs intéressants, Laurence.
Sur les grèves, justement, ça, c'est intéressant.
Oui, mais revenons sur la pollution.
Je vais revenir sur les fameux 17% de la pollution attribuée au secteur des transports. Alors, on va faire du moite-moite.
National.
Après, je vous lis les postes sur Facebook.
Honnête, quand on prend Paris, bon, on est sur 30, Air Paris, c'est 30%. Ouais. 30%.
30%.
Vous m'avez largué là.
30%.
Donc, sur les grandes villes, on a 30%. La part de la voiture, c'est 30% de la pollution, à peu près.
D'accord. La voiture ou les transports. Ah, bah oui, parce que vous avez dit voiture, jeune homme. Pierre.
Donc si on divise par deux, parce qu'on dit de l'autre côté, il y a les camions, les machins, les trucs, il reste 15%. Même sur les grandes villes, il reste 7% à la hauteur de la France.
Allez, on revient dans quelques instants sur Sud Radio pour parler de cette histoire de pollution. Est-ce vraiment la voiture qui est à l'origine de tous les maux? Vous êtes nombreux.
Et si tout s'améliorait.
Et vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio, vous pouvez nous joindre et nous rejoindre en live. Plein de commentaires, j'essaierai de faire une sélection de ces commentaires et de vous en offrir quelques-uns en retour. Restez avec nous et vous pouvez appeler au 0826 300 300. Nous avons les chiffres factuels de la pollution et du rôle de la voiture dans la pollution. Restez avec nous, on en parle sur Sud Radio dans Ça roule.
Sud Radio, Ça roule.
Pierre Chasseret,
Laurence Perrault.
Et nous sommes ensemble, évidemment, pour parler de la pollution dans Ça roule suite à l'intervention d'un d'entre vous la semaine dernière, Benoît, et qui semblait effectivement dire que la voiture était à l'origine de tous les maux de pollution. Donc, factuellement, sans prise de position, on explique avec notre expert, notre ami Fabrice Godefroy.
D'autant plus, Lolo, que ces derniers temps, on est plongé dans un monde où on a l'impression que pour faire bien, il faut parler d'écologie, il faut avoir un programme écologique, et écologie est assimilée à pas de voiture. Pourtant, Fabrice, il arrive toujours avec des... J'ai envie de dire, Fabrice, c'est un grand pragmatique, mais qui repose tout sur des analyses. Il va chercher les documents officiels, il ne travaille qu'avec des documents officiels émanant des services ministériels. Ça qui est génial. Mais il n'arrive pas à la même conclusion. Par exemple, pendant les grèves, vous vous dites, on a pu observer quand même quelque chose qui est assez exceptionnel.
Oui, parce qu'il y a une saisonnalité en fait dans la pollution.
Alors c'est pas la saisonnalité qui m'intéresse là, c'est surtout les grèves. Alors vous allez comprendre pourquoi. On réexplique que pendant les grèves, il n'y avait pas de transport en commun et que on a tous pris nos voitures et que Paris a été hyper saturé de bouchons, donc ça roulait, ça polluait.
Alors comme le dit Pierre, moi je surveille régulièrement, je surveille régulièrement le site d'Air Paris. Et effectivement, on a eu 2 mois de grève et la plupart du temps, on avait 2 fois plus de voitures sur les routes. On a eu des records
battus. De bouchons.
Et tous les jours, je regardais Air Paris, on n'a pas eu un pic de pollution pendant cette période-là. Alors donc, que je vous rappelle que maintenant, la restriction automobile se fait d'une façon automatique. Vous saviez qu'il y a quelques années, il fallait que ça passe par le préfet de police. La maire de Paris lui demandait, le préfet de police ne prenait pas de décision, ça faisait toute une polémique. Maintenant, c'est fait d'une façon automatique.
Bon, et là, pendant 2 mois de grève,
que ça n'a pas été l'automobile.
Mais alors, est-ce qu'on peut en déduire tout simplement? Parce que moi, je reviens
deux fois plus de voitures, moins de pollution.
Je reviens sur des données très objectives.
On nous dit
les grandes villes, grosso modo, on est à une part de la pollution liée au transport.
Un tiers.
Qui est au tiers. Il y en avait beaucoup plus. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que ça serait surestimé? Parce que moi, j'ai vu où sont placés les capteurs aussi d'Air Paris. Parce que vous savez, si je mets un capteur de CO2 sur le micro, c'est moi qui l'émets dans la pièce.
Ah, c'est sûr que si on met le thermomètre, si on met le thermomètre sur le radiateur, c'est ce qu'on fait sur le périphérique, évidemment, on va prendre une pollution plutôt liée à l'automobile. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'on parle souvent de la pollution locale. Quand on prend toutes ces stats, c'est la pollution locale. Mais il y a une saisonnalité quand même dans la pollution, et je tiens à en parler parce que le ministère de l'écologie en parle. 70% des pics de pollution se situent entre le mois de décembre et le mois de mars.
Et là, on n'en a pas.
Et donc, on s'aperçoit très bien que c'est souvent quand il fait froid, et il y a aussi la pollution délocalisée. On a des villes dans le nord de la France ou l'est de la France qui sont souvent en pic de pollution.
Lille,
pourquoi?
Par exemple.
Parce que quand les vents viennent de l'ouest, se prend les pics de pollution des centrales à charbon allemandes ou polonaises, ou de l'est, Et donc, on voit très bien qu'il y a aussi cette pollution-là.
Je voulais revenir sur, et après on accueille Eric, et puis vraiment je voudrais vous lire, parce qu'il y a plein de commentaires là sur... je vais commencer par ça, mais je veux revenir sur la période de grève, vous allez comprendre pourquoi. Il faut que je remette tout là-haut, attendez, on est sur Internet, voilà... Ne pas oublier une donnée dans la pollution, c'est Stéphane qui nous dit ça, le dieselgate avec des consommations 100 fois supérieures à la norme et personne n'a modifié les calculateurs suite au scandale.
Je vais rebondir.
On va pouvoir en parler.
Merci Stéphane de cette réaction.
Ça fait partie justement des rapports toujours à charge que l'on a, alors souvent sur le diesel, parce que le diesel, c'est un peu, vous savez, la série à la mode pour les ONG, on aime bien, c'est l'épisode 1, épisode 2, épisode 3.
Et les SUV,
tous les mois, on a droit à une petite série, un épisode à succès qu'on va mettre sur les une plateforme de téléchargement. Et alors, je vais prendre un exemple, par exemple, sur les dépassements des normes. Vous savez, les fameux radars de pollution. En un exemple, je vais vous montrer que c'est pas possible. Comment peut-on, avec un radar de pollution, estimer qu'un véhicule ne respecte pas la norme? Je vais prendre un exemple qui est très clair. Mmh. Vous avez une voiture qui passe devant un radar de pollution en accélérant. On va avoir un seuil de pollution bien à sûr. L'échappement, forcément. Si on accélère quelqu'un qui accélère fortement, encore pire. La même voiture passe 5 minutes après devant le radar de pollution, mais ce coup-là en décélérant et même en freinant. Est-ce que la voiture va avoir le même seuil de pollution?
Bah non.
Non, ça va être.
Alors comment peut-on, sur une norme qui n'est pas calibrée et qui ne correspond pas justement à la norme d'homologation, déterminer qu'un véhicule sur un radar de pollution qu'on a eu notamment à Paris en 2018 avec un rapport en 2019 de l'ICCT, à Marseille testé il n'y a pas longtemps, et on nous dit, voyez, avec le radar de pollution, les véhicules dépassent les normes. C'est pas possible
chose,
avec un radar de pollution.
Il faut pas confondre l'affaire diesel qui a été la volonté d'un constructeur de truquer
masquer
certaines données.
Bien
et
sûr.
Là, nous, on vous parle pas de ça. On vous parle de de pollution réelle, palpable, ce qui ressort vraiment sur le parc. Mmh. Et ça, elle a été divisée par 20 depuis 20-30 ans. Mmh. C'est comme ça.
Réaction de Samuel également sur Facebook. Et après, on accueille Eric de Toulouse qui est très patient et je le remercie. Et merci à Louise d'avoir appelé le standard pour dire qu'elle était d'accord avec moi que les Parisiens marchaient beaucoup parce qu'elle est du Sud et quand elle vient à Paris, elle ne fait que marcher. Samuel qui nous dit la pollution industrielle, agronomique et chimique, on est mal barré, sans oublier les déchets radioactifs dont les pouvoirs publics se fichent royalement.
Oui, alors tout en sachant...
Ensemble
c'est,
de pollution.
C'est moins notre domaine, donc on regarde moins ce qui se passe de ce côté-là. En revanche, je vais vous prendre un exemple, parce que je me souviens d'une autre vie où je travaillais, dans une ONG environnementale. Pardon. En fait, par exemple, vous prenez un incinérateur. Avant, un incinérateur, on mettait les poubelles, ça cramait, point barre,
quand
on
n'en parlait
pas.
Quand ils ne sont pas en grève, parce que là...
Et les incinérateurs aujourd'hui, maintenant, vous avez des filtres à furane, notamment, qui sont placés au-dessus et qui viennent aspirer certains polluants qui étaient toxiques. Donc, il y a une amélioration quand même. En fait, tous les secteurs s'améliorent. C'est ce qui fait qu'on a une qualité d'air qui s'améliore.
Alors, je vais vous parler d'une petite expérience personnelle que j'ai vécue hier matin. On en a parlé avec Fabrice. Je suis allée visiter, dans le cadre de mon diplôme universitaire journaliste du vin, une des plus grandes maisons de verriers, enfin des créateurs de verres qui font des bouteilles de champagne, des boutins de vin dit tranquille, qui font aussi d'autres choses, hein, les bocaux de verre, par exemple, pour la conserve. Il nous expliquait que si on triait bien chacun d'entre nous, et là, pour le coup, on peut le faire. Alors, on est hors pollution en voiture, on est d'accord, mais autant faire passer le message. Si on triait bien, chacun d'entre nous, tous nos verres, nos bouteilles, que les ampoules, on les met dans des bacs à ampoules, qu'on ne met pas nos bols cassés en céramique dans les trucs à bouteilles, juste les bouteilles et les bocaux en verre, dans ce qui s'est fait pour ça, eh bien, il diminue de plus de 5% la consommation et le rejet en extérieur de tout ce qui est gaz polluant, à faire travailler un four qui monte à 1500 degrés à base d'énergie thermique comme, et fossile comme le fioul et le gaz. Donc ça, c'est le petit truc, il faut le faire aussi. Faisons super gaffe à ça.
Ça, c'est être citoyen. Allez, on accueille Eric.
Eric.
Oui, bonjour.
Merci de votre patience.
Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Écoutez, moi, je pense que... le facteur d'ordre 1 dans tout ce qui est pollution au niveau des villes, c'est effectivement la météo, parce que on a des concentrations donc de divers sources. Donc le véhicule, effectivement, les fortes particules, notamment des véhicules diesel en ville, effectivement, ça c'est un problème. Après, on a tout un tas d'autres sources de pollution, mais c'est surtout le facteur météo, comme vous l'avez dit. S'il y a du brouillard, s'il n'y a pas de vent, etc., ça se concentre et c'est un phénomène météorologique qui va aggraver.
Eric, pourquoi vous dites le problème des diesels en ville, ça c'est évident.
Il a dit entre autres, quand même.
Ouais.
Mais pourquoi? Ouais, parce que pour moi, le véhicule diesel est moins polluant qu'un véhicule essence. Le problème, c'est qu'un véhicule diesel, alors pas les nouvelles générations avec les filtres à particules hyper performants. Mais un véhicule diesel émet plus de particules qu'un véhicule essence. Mais au global, le véhicule essence est largement plus polluant que le véhicule diesel. Et là, on voit bien tout le problème qu'on a aujourd'hui. Enfin, pour moi, l'automobiliste est toujours pris en prétexte, en fait, hein, pour le taxer et puis pour tout mettre sur son dos. Parce que les vrais problèmes sont plus d'ordre internationaux. C'est les porte-conteneurs qui polluent énormément avec du fioul lourd, les grands navires de croisière, les avions. Enfin, là-dessus, alors qu'il y a aucun filtre, finalement, il n'y a aucune norme, et ça pollue. Je crois que les 15 plus gros porte-conteneurs polluent plus que tout le parc automobile
mondial. Alors là, la transition est toute trouvée, parce que sous les yeux, Fabrice Godefroy, ça va vous plaire, il a et les 10 plus gros pollueurs d'Europe sont...
Alors les 10 plus gros pollueurs d'Europe sont 9 centrales à charbon et une compagnie aérienne. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le sort, c'est une ONG qui aime bien Porto l'automobile, il l'adore, c'est Transport Environnement. Donc vous voyez, les 10 plus gros pollueurs sont des centrales à charbon en Pologne, en Allemagne, Pologne, Bulgarie, Allemagne.
Le problème, c'est qu'on focalise sur l'automobile parce que c'est facile, et puis on peut le taxer.
Mais parce que c'est la vache à lait.
Mais c'est un faux problème, on résoudra rien en s'acharnant sur l'automobile. Vous croyez qu'en mettant des véhicules électriques qui n'ont pas d'autonomie, dont les circuits électriques aujourd'hui ne sont même pas dimensionnés pour charger une voiture comme on voudrait le faire?
Mais Eric,
si tout le monde se met à charger les véhicules, il faut revoir tout le réseau électrique.
Vous savez, Eric, où est le problème? C'est que, en fait, on vit dans un monde où on a réussi à nous faire croire que si, en mesure politique, on ne fait rien, ça stagne ou ça se détériore. Alors que c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est l'inverse. Si politiquement, on ne fait rien, ça s'améliore. Parce que derrière, il y a une recherche et développement qui est mise en place. Vous savez, ce qu'on appelle véhicule sale aujourd'hui, vous avez dit, les vieux diesel. Bon, par exemple, il faut savoir, quand ils sont sortis il y a une quinzaine d'années, on les trouvait vachement propres. En fait, le véhicule propre d'aujourd'hui, c'est le véhicule sale de demain.
Tout à fait, tout à fait. C'est clair.
Juste pour revenir sur, et merci de votre réaction, Eric, on vous souhaite un très très beau week-end à Toulouse, mais ce que nous dit Eric et ce que vous dites sur les diesels, la preuve en est, c'est que les concessions, les marques disent aujourd'hui à certaines de leurs concessions, on peut parler de Peugeot, à toutes leurs concessions, allez-y à fond pour vendre les nouveaux diesels qui sont beaucoup moins polluants pour le fameux CO2.
Ah oui, alors CO2. Le problème, c'est aussi ça. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. D'un côté, il y a le côté pollution, donc particules, oxyde d'azote, CO, HC, etc.
Ça, c'est le côté pollution santé.
Santé. Et puis de l'autre côté, il y a le côté climat. Et le côté climat, c'est les gaz à effet de serre, c'est les CO2. Et effectivement, pourquoi on s'est retrouvé dans une situation où on a eu énormément de diesel, même trop, il faut l'avouer, même moi, je suis le premier à le dire. 75% de véhicules diesel sur le parc roulant à un moment, c'était beaucoup trop. On est à 70% aujourd'hui. Parce que, effectivement, à un moment, c'était le climat qui comptait. Et comme le diesel consomme moins de 20%, il y a un écart de CO2 par rapport à l'essence. Et c'est pour ça qu'on a poussé le diesel d'une façon excessive.
Mais c'est pour ça que ça y perd son latin. Parce que moi, je me mets à la place de celui qui a profité du Grenelle de l'environnement. Je dis bien Grenelle de l'environnement. Pour acheter une voiture avec le bonus environnemental, eh bien, ça l'incitait à acheter un petit véhicule citadin diesel.
Mais c'est toujours le cas, avec le malus actuel. C'est sur le CO2.
Sauf qu'il n'y a plus de bonus.
Voilà, il n'y a plus de bonus. C'est que sur le véhicule électrique.
C'est évident que l'histoire de la pollution, on en reparlera dans sa route, puisqu'on est toujours factuel et on n'est pas en train d'être des bêtes défenseurs
surtout
de la voiture.
J'insiste là-dessus.
Je
ne veux surtout pas qu'on imagine qu'on est sceptique par rapport à la pollution. Ce n'est pas du tout le cas. On sait que les choses s'améliorent. Il faut que ça continue à s'améliorer. C'est une évidence. Il y a des progrès à faire, notamment sur les oxydes d'azote, sur les diesels. Ils sont en train de le faire sur les véhicules diesel. Tout doit s'améliorer. Mais par contre, il ne faut pas avoir ce côté uniquement unilatéral où on a l'impression qu'il n'y a que l'automobile qui est une source de pollution. Et surtout, cette multiplication des rapports laisse sous-entendre que la situation s'aggrave. Alors qu'elle s'améliore et que les seuils d'alerte et que les seuils d'objectifs européens sont en train de baisser. Et malgré ça, finalement, on arrive à avoir moins de pic de pollution qu'on en avait il y a quelques temps.
Voilà, et puis on rappelle que pendant la grande période de grève, alors Paris n'est pas la France, et je m'excuse auprès de tous les...
Et c'est pareil dans les autres villes.
Oui, mais évidemment, c'est pas ça, mais il n'y a pas eu de pic de pollution, mais il n'y avait pas de transport non plus.
En plus, tout à fait.
Et Laurent, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent...
Le métro est très polluant à Paris.
Mais dans les années 70, 80, 90, Pierre Chasseret, Laurence Perrault, Fabrice Godefroy, il n'y avait pas de pic de pollution, on respirait bien. Je voudrais juste vous dire un truc. Non, il y avait plus de pollution, c'est juste qu'il n'y avait pas de normes. Donc, on sait qu'il y avait davantage d'émissions. C'est juste que comme on ne pouvait pas les normer, alors il n'y avait pas de pic. Si vous voulez, si on avait appliqué les pics d'aujourd'hui dans les années 90, on passerait 360 jours par an en pic de pollution.
Les seuils d'alerte ont démarré en décembre 2007, exactement. Voilà. Avant, non mesuré sur les particules. Donc forcément, on n'en avait point. Donc vous voyez,
pas de thermomètre, pas de température.
Voilà, c'est clair.
Voilà, d'autres réactions, comme Christian Tassin, qui réagit aussi sur la page Facebook, puisqu'on est en live et vous pouvez nous rejoindre, qui reparle de ces fameux paquebots.
Et la bise à Pithiviers.
On parle toujours sur les...
Et au chef Soda.
Et les avions, les bateaux pour touristes, de vrais immeubles flottants et leurs déchets quand ils sont en pleine mer, que deviennent-ils? Des questions aussi également à soulever. Donc voilà, en fait, ce qui me fait plaisir dans cette émission, dans les réactions nombreuses qu'on a eues au téléphone et sur Facebook...
C'est pas sectaire.
C'est pas sectaire, et puis les gens, ça y est, je pense que la majorité d'entre nous, c'est-à-dire que nous qui sommes tous ensemble, à l'écoute ou pas à l'écoute, voilà, on commence à faire la part des choses sur cette histoire de pollution. attention, il faut pas nous prendre pour des bleusailles.
Et Thierry, tu nous dis que ça fait 27 ans qu'il utilise le vélo pour aller travailler.
Il doit avoir des belles fesses, hein, et des belles cuisses.
Tu sais, Thierry, t'as raison, c'est bien si tu peux te le permettre.
Si je pouvais faire ça, moi je ferais ça.
Moi j'aimerais bien,
évidemment.
Plus besoin d'aller dans la salle de sport en plus, on ferait du sport tous les jours.
Non, mais ça peut être très bien. Encore faut-il en avoir les moyens et être en capacité de le faire physiquement, s'entretenir, avoir le bon âge, pas trop de valises sur le dos. Mais en tout cas, voilà, attention. Qu'on soit très clair, nous ici on n'est pas anti-bagnole, mais on n'est pas anti-vélo, on est même plutôt pro-vélo.
Et d'ailleurs, on est pro-bagnole aussi. Hein.
On en parle dans quelques instants.
À midi, on recevra Teodoro Bartuccio et son livre Mon vélo est une vie, préfacé par Michel Semes, Monsieur le médecin entre autres, qui a été d'ailleurs présenté à l'Assemblée nationale et la semaine dernière à quelqu'un que je connais bien et qui est à mes côtés. Dites donc. Merci beaucoup, mon Fabrice Godefroy.
Ah bah avec plaisir, toujours.
À suivre, on va aller faire un petit tour sur le dernier week-end à Rétromobile parce qu'il se passe vraiment des jolies choses. Et puis notre rendez-vous moto avec notre nouvel intervenant qui est Monsieur Jean-Michel Lenné qui viendra nous parler sur un test avec entre autres les nouvelles BMW F900R et F900XR. Amis motards, vous avez votre place aussi, vous le savez, mais ça fait 5 ans. On n'a pas attendu Monsieur Jean-Michel pour faire place à la moto sur Sud Radio dans sa roue.
Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et nous sommes avec vous, avec l'un de nos réguliers hein, dans sa roule. C'est un des copains de sa roule, voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il s'appelle Teodoro Bartuccio parce qu'il vient de signer un très très joli livre aux éditions JDH Éditions. Mon vélo est une vie et on avait évidemment envie de lui donner toute la place qu'il méritait parce que, un, on aime beaucoup le bonhomme, ça c'est clair, mais deux, c'est un vrai spécialiste du cyclisme et du vélo partout en France.
Je crois qu'il fallait un ambassadeur en France qui puisse parler de vélo sans créer du clivage, sans donner l'impression qu'on est dans l'intégrisme du deux-roues, qu'on est contre les voitures, qu'on est opposé à tout. Je crois que ça manquait. Il manquait dans le paysage des cyclistes quelqu'un qui puisse véhiculer une image de partage, une image de bienveillance, sans pour autant, vous voyez, un porte-parole, quoi. Un type chez qui on peut tous s'identifier. Alors, tous les cyclistes ne seront pas d'accord avec Théo à 100%. Ils seront d'accord à 85%. Mais déjà, trouver quelqu'un qui fait l'unanimité à 85%, c'est beau. C'est un score de dictateur, ça, mon Théo. Donc, ce qui est fort, c'est que chez les automobilistes, Théo, c'est pareil. Il ne fera pas l'unanimité chez vous tous qui nous écoutez, mais à 85%. Moi, c'est mon ami à 100% et pourtant, je suis d'accord avec lui à 85%.
Voilà. Salut Teodoro.
Bonjour, merci Laurence et merci Pierre pour l'invitation.
On va évidemment donner la parole à tout le monde. 0826 300 300. Venez nous parler de votre lien avec le vélo. Hein. Est-ce que vous allez au boulot au vélo? Est-ce que pour vous, c'est le moyen de locomotion demain? Vous pouvez aussi nous retrouver en Facebook Live sur la page de Facebook Sud Radio. Alors Théo, vous dites le vélo, la bicyclette, la petite traîne, peu importe le nom qu'on lui donne, car la route n'est plus adaptée aux cyclistes. C'est pour cette raison que ce livre est entre vos mains, pour moi, pour nous. C'est ce qui a marqué derrière. C'est fort déjà. Là, bam, on se prend une claque. Hein.
C'était le but quand on a créé l'association en 2017, c'était d'alerter l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics, et ensuite tout simplement il fallait continuer, et ce travail c'est un acte de militant, et aujourd'hui on a écrit ce livre non seulement pour retracer l'histoire de l'association Mon Vélo est une vie, mais aussi pour continuer à sensibiliser tous les usagers de la route. Donc je pense que la mission est plutôt bien remplie.
Parce que l'idée de Théo, c'était de rassembler les associations d'automobilistes, de motards et de vélos en disant tous ensemble, on sera plus forts et on aura un meilleur message de paix. Un jour, il appelle l'association 40 millions d'automobilistes, Théo, et puis moi je me suis dit, oh là là, c'est encore quelqu'un qui va me chercher des problèmes, j'ai pas envie de le rencontrer. Et c'est les filles au bureau qui sont allées le voir, Julie, Coralia, et voilà, ils racontent cette histoire. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de Julie. Elle me confirme qu'elle a beaucoup apprécié nos conceptions et nos problèmes qu'elle a soumis à Pierre, ainsi qu'aux élus de l'association. Nos idées ont donc été validées. Elle me dit aussi que Pierre nous invite à faire une émission sur Sud Radio afin de parler plus amplement de Mon Vélo est une vie. À la fin de l'émission, nous irons manger avec lui. Donc voilà, Laurence était là, on était dans l'histoire, et il écrit cette phrase. Il dit, quand j'ai eu Pierre pour la première fois, le courant est tout de suite passé, il m'a avoué son amour pour le cyclisme. Pierre est un mec comme moi, passionné au grand cœur, mais avec beaucoup de caractère, c'est le genre de personne qui n'a pas peur de te dire merde en face. Voilà.
C'est signé.
Théodoro Bartuccio. Alors... Il est avec son éditeur qui est venu, Jean-David Haddad. Ouais. Bonjour Jean-David. J'ai une petite question pour vous, Jean-David. Comment s'est passée l'histoire? C'est vous qui allez voir Théo pour lui dire moi j'aime bien ton truc, ou alors c'est lui qui vient vous présenter un concept et vous dites tiens, il y a un truc intéressant là-dedans. Comment ça se fait l'accroche de la maison d'édition et puis d'un cycliste?
Alors, c'est variable en général, il y a plusieurs cas de figure, mais pour ce qui concerne le cas précis dont nous parlons ici, donc Théo nous a été présenté, nous avons été présentés tous les deux par un ami en commun, et Théo m'a dit qu'il avait un projet de livre, et tout de suite j'ai accroché avec, sans même lire le texte, j'ai accroché avec le projet, avec l'idée, parce que ce que j'ai compris immédiatement, c'est que c'est un livre qui était tout le contraire d'un intégrisme. C'est un livre qui était un livre où on dit qu'il faut partager la route, un livre où on dit qu'il faut que tout le monde s'entende sur la route. C'était vraiment le message. J'ai lu le texte que ensuite, et puis effectivement, donc ensuite on lit le texte avec un comité de lecture, etc. On aménage le texte, mais j'ai beaucoup aimé le côté très très direct et finalement assez peu conventionnel, hein, parce qu'on édite des choses assez peu conventionnelles dans ma maison d'édition JDH Édition, mais et là en l'occurrence le côté très peu conventionnel, bah comme vous venez de dire, avec un langage très direct en quelque sorte. Et ça, on a beaucoup aimé, on a beaucoup apprécié.
Extrait, le choc, puisque c'était aussi ça qui a été à l'origine de la création de l'association Mon vélo est une vie. De retour de ma dernière journée de travail, ça y est, c'est le week-end, il est 18h précise, me voilà revenu dans mon petit village de Mai en Maltemps. Il fait beau, il fait chaud, je range ma sacoche de travail, je tire ma veste, je m'installe tranquillement sur la terrasse. L'heure est à la décompression. En visionnant et en voyant trois appels en absence, je m'interroge, bizarre. Que me veut Fabrice ? Peut-être se greffer à une sortie ?
Ça, c'est pas moi. C'est en fait l'ami de la personne qui est décédée qui raconte.
J'étais en train de raconter,
voilà.
Ouais,
c'est
c'est
pas grave. Excuse-moi, je pensais que c'était moi.
Non, d'accord, c'était okay. Un extrait. Voilà, okay, en l'occurrence, voilà, on va avancer. C'est pas grave. 15 minutes, c'est cool. Il me rappelle en larmes. C'est grave, c'est Greg. Il a été renversé ce matin. On devait se retrouver à l'entraînement. Quoi ? Oui, il s'est fait happer par un camion à un rond-point de Saint-Vitz. C'est grave ? Oui. Non, mais non, Fabrice, me dis pas si. Merde, il va s'en sortir ? Il n'est pas mort ? Si. Ça, c'est juste, c'est pas juste, c'est énorme, c'est ce que vous vivez, ce que d'autres ont vécu, vous l'avez vécu, d'autres le vivent encore, c'est que oui, à vélo, en France, on peut mourir.
Alors oui,
tout ce que vous mettez.
Voilà, en fait, ce qu'on a voulu aussi dans ce livre, c'est-à-dire non seulement expliquer l'histoire de l'association sur les 2 ans et demi, mais aussi avoir des témoignages. On a la femme de Grégoire Somogy qui témoigne. On a son ami et on a aussi la maman de Mathieu Riebel, Mathieu qui était un jeune de 20 ans et qui était un ami très proche. Voilà, donc l'idée c'est de faire des témoignages, non pas pour tout simplement pour faire de l'audimat ou quoi que ce soit ou vendre du livre. Non, l'idée c'est de sensibiliser. Et en fait, on voulait vraiment expliquer aux gens, tous les usagers de la route, que sur un vélo il y a une vie et que derrière il y a des drames quand il y a un accident. Et ça c'est quelque chose de très fort parce qu'on s'en rend pas compte. Vous savez, il y a un accident, on oublie, mais on se rend pas compte des suites qu'a la famille ou tout simplement le blessé.
Alors, il y a un chiffre que tu as mis en avant, Théo, à l'Assemblée nationale pour la présentation de ce livre, et qui, moi, m'a particulièrement touché. Alors, évidemment, il y a des évidences. Un cycliste, quand il fait une bêtise, il la paye cash. Quand l'automobiliste fait une bêtise sur un autre automobiliste, ça fait de la tôle froissée, un constat. Quand ça tape un cycliste...
Ou un piéton.
Ouais. Malheureusement, le cycliste, il paye aussi cash. Souvent, au prix parfois de leur vie. On a un indicateur. Toi, tu dis, c'est pas une fatalité, ça. On peut agir. Et Théo donne un exemple qui est génial. On lui dit, oui, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de vélos sur les routes. Oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de vélos sur les routes. Et en même temps, il dit, ouais, mais quand il y a eu de plus en plus de voitures, il y a eu aussi de moins en moins d'accidents. Donc, pourquoi on pourrait pas avoir plus de vélos et moins d'accidents? Il pose le doigt sur ce qui fait mal, c'est-à-dire un manque de prévention, d'éducation, de sensibilisation en France.
Oui, à chaque fois que je fais des réunions interministérielles, puisque j'ai participé sur cette mesure gouvernementale qui me tient tellement à cœur, le savoir rouler, c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, mais Théo, mais tu sais, mais c'est normal qu'il y a plus d'accidents chez les cyclistes, il y a plus de cyclistes. Non, moi je suis pas d'accord. Une vie est une vie, et en même temps, c'est ce que tu disais Pierre, j'ai regardé les chiffres, le nombre de voitures a augmenté, et pourtant, on a diminué cette croissance de mortalité. Pourquoi on fait pas la même chose pour les cyclistes ?
Est-ce que la mentalité des cyclistes a augmenté dans les grandes villes ou c'est un peu général partout en France ?
Ça, c'est intéressant.
Alors, on a beaucoup plus d'accidents hors agglomération. On est à 61% des accidents hors agglomération. Et le taux de mortalité, pareil, est très est complètement différent par la, en milieu rural qu'en milieu urbain. Le plus grand nombre d'accidents, c'est hors agglomération. Et au niveau de la mortalité, pareil.
Alors, je vais faire un truc. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais amené à faire ça, Laurence. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui, de temps en temps, caricaturent les propos de tout le monde parce que y a une incompréhension, une forme d'incompréhension entre des cyclistes qui considèrent que l'automobiliste a besoin d'être plus sensibilisé et qui peut-être entendent de façon malheureuse ce qu'on peut dire, y compris dans cette émission. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Cyclo Castor. Voilà, je lui fais de la pub, mais en même temps, c'est comme ça. Eh bien, je lui ai parlé hier au téléphone et j'ai découvert quelqu'un qui était, dans un premier temps, qui était très agressif vis-à-vis de moi sur les réseaux sociaux. Et après un peu de discussion, finalement, on est tombé peut-être d'accord sur certains points. Théo, c'est pareil avec toi. J'ai l'impression qu'en ce moment, le plus gros du combat va être dans un premier temps de réellement unir les usagers. En faisant oublier que derrière l'association 40 millions d'automobilistes, il n'y a pas des gens qui prônent le tout voiture et que derrière des associations de cyclistes, il n'y a pas des gens qui prônent le tout vélo et qu'on peut s'entendre ensemble sur les routes. C'est vraiment le petit message qu'on va devoir faire passer parce que j'ai l'impression qu'en discutant entre nous, ça marche.
On en reparle évidemment et on continue avec vous Théo, notre invité, auteur de ce livre Mon vélo est une vie, Teodoro Bartuccio, mais également à l'origine de l'association qui porte le même nom. Le livre préfacé de Michel Simès, le célèbre médecin chez JDH Éditions, effectivement à disposition de tout le monde. On revient dessus, on accueillera Bernard aussi qui nous rejoint au 0826 300 300 et qui veut également s'exprimer sur l'antenne de Sud Radio. A tout de suite, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous pensez qu'il existe une possibilité tous de cohabiter correctement sur la route, ville, campagne réunies, vélo, voiture, moto, trottinette maintenant, va venir nous donner votre avis, 0826 300 300.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et on continue de parler de ce merveilleux livre « Mon vélo est une vie » de Teodoro Bartuccio, qui est notre invité. Attention, cycliste en danger. Pourquoi, Teodoro, puisque votre livre est paru aux éditions JDH Éditions, la préface de Michel Simès, c'est un fou de vélo, c'est un, à part le fait que c'est un médecin célèbre et plutôt médiatique?
Alors Michel est un fou de vélo, on va dire côté sportif, mais aussi côté urbain. Donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises au Vélodrome national de Saint-Quentin. Il est vraiment passionné et en même temps, la dernière fois quand je l'ai vu, il était encore à vélo et il se déplace régulièrement à vélo. Donc c'est un passionné, tout simplement.
Ouais, donc l'histoire était un peu écrite d'avance, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de te voir à côté de quelqu'un qui crée aussi un peu l'unanimité autour de lui. C'est quand même un personnage qu'on aime bien. Tu as sans doute vu Théo là récemment, sur les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus, il y a un enfant qui a été renversé en Drésienne. Alors Drésienne, on explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit vélo où il n'y a pas où les pieds touchent par terre pour que l'enfant puisse apprendre le vélo en ayant une stabilité avant tout. Ensuite il passe aux pédales et du coup il ne tombe pas, il n'a pas le problème des petites roulettes sur le vélo. L'enfant est décédé, renversé par une voiture, c'est passé dans 77 à Paris. Ça fait un peu effet boule de neige et c'est devenu, c'est terrible, on touche aux enfants. C'est quoi les préconisations aujourd'hui de Mon Vélo est une vie pour qu'il y ait cette prise de conscience, pour qu'il y ait cette évolution positive? Parce qu'on a des pays, j'ai regardé sur Twitter ce matin un peu, je regardais ce qui se passait, il y a beaucoup de partisans du vélo qui disent qu'on ne nous dise pas que c'est une fatalité de mourir à vélo. Il y a des pays où il y a zéro accident, donc on peut le faire. C'est quoi notre lacune française?
Vous savez, moi je pense que zéro accident, c'est impossible. On ne peut pas. Il y a toujours un facteur où on peut avoir un accident, que ce soit à vélo, même à pied. Je sors, je peux me faire renverser. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne forme pas nos enfants, on ne forme pas les gens à cohabiter. On ne forme pas les gens à faire du vélo. Tout à l'heure, je suis encore venu. J'étais en vélo tout à l'heure.
Alors, faire du vélo, Théo, excuse-moi de te couper, c'est pas simplement monter sur un vélo et savoir pédaler. Bien sûr. Faire du vélo dans la zone.
Bien sûr.
C'est comme savoir conduire, c'est pas pousser la boîte de vitesse.
Vous savez, faire du vélo sur un parking tout seul ou dans sa cour n'a rien à voir avec faire du vélo dans la ville avec les autres usagers de la route. Je pense qu'il y a un vrai problème de formation. On parle beaucoup d'aménagement piste cyclable. Alors, c'est tendance, parce qu'on est encore campagne électorale municipale, donc on en parle énormément. Et tous les candidats disent, mais c'est super, il faut faire des aménagements, on va protéger les cyclistes. Oui, il y a des aménagements qui vont protéger les cyclistes. Mais si les cyclistes ne savent pas utiliser leur vélo, s'ils ne savent pas cohabiter avec les autres cyclistes, parce que vous savez, vous avez des pistes cyclables où on se croise. Moi, parfois, quand je rentre du travail, il y a des cyclistes qui viennent sur ma voie.
Vous faites tout à vélo, vous?
Pratiquement, oui. Tous les jours, je vais au bureau à vélo. Les entraînements, je fais à vélo. Sauf quand je me déplace. Par exemple, là, la semaine prochaine, je fais les plages vendéennes. Ouais. Je suis obligé de partir avec le camion, les voitures. Ouais. On n'a pas le choix. Ouais. Le matin, j'emmène mes enfants à l'école, je prends ma voiture. Bah oui. Mais par contre, après, je prends mon vélo parce que je travaille sur Paris et c'est bien plus simple pour moi de prendre mon vélo. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il y a un vrai problème de formation. Alors, certes, on a travaillé avec les ministères sur le savoir rouler. On est en train d'éduquer nos enfants pour apprendre à se déplacer en toute sécurité à vélo et aussi à cohabiter avec les autres usagers de la route. Mais il faut aller plus loin. Je pense qu'il y a un vrai, vrai, il y a un vrai challenge sur aussi les automobilistes à les former à cohabiter avec les cyclistes.
Je suis plutôt d'accord parce que je vais aller plus loin. À tous les partisans après, de la piste la cyclable à tout prix. Il y a un moment où la piste s'arrête et croise un carrefour, et croise un rond-point. Et là, à ce moment-là, si on n'est pas d'accord pour vivre ensemble, et si il faut être objectif, hein, un automobiliste sur 10 qui fait une connerie, il est minoritaire, c'est 10%, sauf qu'on voit que lui. Et objectivement, après, on trouve des images de folie sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est dur de lutter quand vous êtes face à une image d'un imbécile qui fait n'importe quoi en voiture et qui met en danger le cycliste. C'est une réalité. Mais moi, je ne suis pas partisan de la piste à tout prix, même s'il faut des aménagements. Je suis plus partisan d'un vivre ensemble sur la route. Et je crois qu'il y a un code pour faire en sorte que tout le monde cohabite, c'est jouable.
Alors, juste une petite dernière chose.
Oui, puis après, on file au standard.
Très, très rapidement. On parle beaucoup d'aménagement cyclable, hein, ça, vous l'avez bien compris. Mais seulement, on ne va pas pouvoir faire des aménagements cyclables dans toutes les, comment dire, dans toutes les villes
et
hors agglomération. Ce n'est pas possible. Et la solution aujourd'hui pour diminuer ce taux de mortalité, c'est la formation et c'est de faire passer un message de sensibilisation.
Alors, juste, on va accueillir Bernard de Toulouse dans quelques instants. On a Angelo qui réagit sur Facebook et je ne suis pas du tout d'accord. Angelo dit qu'on a beaucoup de mépris, de stigmatisation. On oublie les gens de plus de 70 ans. Mais évidemment que non, Angelo. Après, ce n'est pas parce que vous ne faites pas de vélo qu'il ne faut pas parler de ceux qui en font. Et de ceux qui ont besoin aussi d'être protégés. Enfin, voilà. Donc
Mais je comprends ce type de message. C'est ceux qui disent, mais moi, le vélo, c'est pas pour moi.
Non, mais bien sûr. On n'est pas en train de dire le contraire.
Et l'idée de cette émission n'est pas de dire à tout le monde, faites du vélo, va des rétro satanas, vendez votre voiture. Pas du tout. L'idée, c'est de dire comment faire en sorte de pouvoir faire cohabiter ceux qui ont besoin de leur voiture et qui l'utilisent ou qui veulent leur voiture. Point, parce qu'ils ont le droit. Et comment faire cohabiter ces gens-là avec ceux qui ont fait le choix d'être sur un vélo parce qu'ils veulent. Parce qu'ils en ont besoin, ça existe aussi d'avoir besoin de son vélo. Eh bien voilà, il faut vivre ensemble. Le principe, c'est justement, on est à l'inverse de cela dans cette émission. On est en train de dire, chacun fait ce qui lui plaît en essayant de ne pas porter atteinte à la liberté de circuler de l'autre.
Mais voilà. Non, mais moi, depuis les années 70-80, il y avait une jolie phrase qui disait « Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Juste dans la vie en général et pas que sur la route.
Tu m'étonnes.
On faisait plus attention à l'autre. Je peux vous dire que ça irait beaucoup mieux sur notre planète. Voilà, Angelo, je veux bien devenir votre ami et non, je ne suis pas une baby boomers. Plus maintenant. Une boomers peut-être, mais plus une baby. Bernard, bonjour.
Oui, bonjour. Je ne suis pas de Toulouse, mais de Bordeaux.
Ah pardon, de Bordeaux.
On va pas chipoter pour 400 bornes quand même.
Non, c'est pas la même chose.
Je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que je partage pleinement tout ce qui vient d'être dit. Et entre autres sur le partage de la route. Alors donc je suis très d'accord quand on sort de la ville et qu'on prend la route à vélo, on est vraiment en danger. Et entre autres je pense surtout aux compétiteurs, ceux qui font de la course cycliste et qui prennent la route pour faire des entraînements et qui partent souvent tout seuls sur la route, vraiment, ils font très attention de rouler bien à droite. Mais je voudrais passer un autre petit message qui rentre dans le contexte de votre émission, c'est le partage de la route aussi avec les cavaliers. Parce que je voyage beaucoup dans la campagne périgourdine, en Dordogne, et je vois souvent des cavaliers, et je vois souvent des comportements qui me font mal au cœur, parce que il y a des dangers, il y a des accidents, il y a des morts, et là, souvent, quand c'est un cavalier, il y a souvent et le cheval et le cavalier qui sont tués. Alors, je voudrais passer ce message que jamais personne ne dit, même pas la sécurité routière n'en parle, c'est faites attention quand vous allez à la campagne, il peut y avoir, surtout sur les petites routes, des cavaliers qui essaient d'être bien sur la droite et même sur le bas-côté, mais ralentissez. Et je dis surtout le message aussi aux tracteurs et aux agriculteurs, faites attention aux cavaliers, la route elle se partage entre la voiture, la moto, le vélo et aussi le cheval.
Voilà, c'est en tout cas le partage total.
De toute façon, on va pas faire des voix pour tout le monde. Donc au bout d'un moment, soit on cohabite, soit mais c'est oui. Le boxon. Donc il n'y a pas 50 façons. Mais moi, je suis vraiment, et c'est pour ça que j'aime ce
et
livre.
Merci beaucoup Bernard de Bordeaux.
De Teodoro Bartuccio. J'aime beaucoup ce livre de Théo parce qu'en fait, c'est un appel à la paix. Je trouve que dans ces temps de campagne municipale où on voit chaque communauté un peu s'opposer, nous, on a fait le choix avec 40 millions de pas être sur le créneau parce qu'on trouvait ça un peu stigmatisant les uns contre les autres. Ça donnait une image un peu presque fondamentaliste. De la structure, donc on a décidé de pas aller sur ces municipales. Eh bien, je trouve que vous apportez un beau symbole de paix, que le bouquin, il arrive au meilleur moment.
Voilà. Alors, quelles sont les idées, les propositions que vous faites concrètement, Théo, s'il nous reste 3 minutes de mission, à travers votre livre d'ailleurs, vous les expliquez.
Alors, nous, ce qu'on veut absolument, et c'est pour ça qu'on a décidé d'éditer le livre à cette période, c'est qu'on veut que tous les candidats mettent dans leur programme au niveau des municipales du savoir rouler. Il faut absolument qu'on arrive à développer cette mesure gouvernementale qui est très très importante, non seulement pour mettre en sécurité nos enfants aujourd'hui, mais aussi on va travailler sur les futures générations. Et ça on insiste, et d'ailleurs on est en pleine campagne on va dire nous aussi, mais vraiment pour rencontrer les candidats et leur faire passer un message en disant oui aux pistes cyclables, mais surtout le savoir rouler, il faut le développer.
Est-ce qu'il y a des secteurs en France où vous avez des candidats ou des villes qui sont plus à même, plus ouvertes à vos propositions, à vous recevoir, à en discuter, ou même voire plus actives avant même votre arrivée ?
Alors, je suis très content parce que aujourd'hui, on a un très bon dialogue avec la municipalité de Paris, avec Madame Hidalgo. Attendez.
Non mais elle vire les voitures pour mettre.
Oui, mais...
donc elle est pas dans le partage. Je suis désolée.
Alors après, il faut pas.
Elle est pas dans le partage.
Il faut. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Moi, je suis pas en train de dire. Vous savez, l'association Mon Vélo est une vie. On n'est pas militant pour le développement du vélo. On milite pour la sécurité et le partage de la route.
Mais comme Paris n'est pas la France, est-ce qu'il y a d'autres communes ?
Alors. Aujourd'hui, Paris a décidé de mettre le savoir rouler en avant, donc ça c'est une très bonne chose. Et on a d'autres villes aussi, on a d'autres contacts sur d'autres villes qui sont en train d'essayer de le mettre en place. Alors il y a des villes dans le sud de la France qui ont décidé.
On a nommé Paris, alors, donc on peut nommer les autres.
Il y a Hyères qui est en train de le mettre en place avec le Vélodrome. Et puis après aussi grâce aux fédérations, ils sont en train de le mettre en place. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment on est en train de diffuser un message à travers tous ces candidats pour leur dire. Voilà, il faut mettre en place le savoir rouler. Et moi, je suis prêt à faire un tour de France avec Jean-David, l'éditeur de JDH Éditions, pour rencontrer les candidats et leur expliquer comment le mettre en place. Mais ça, c'est très, très important.
Savoir rouler, en fait, ce que dit Théo, c'est que ça commence dès l'école et qu'il faudra aller plus loin sur la formation, mais que ça passe aussi par la formation de nous qui sommes confrontés en ville, en dehors des agglomérations, peut-être à certains cyclistes qui peuvent passer. Et on a une vraie méconnaissance des règles. Je cite toujours la même, mais c'est quand je suis tout seul avec 2 enfants sur la route, eh bien, où est-ce qu'on se met ? Devant pour éviter, derrière pour bien sécuriser les deux, dans le milieu pour voir celui qui est devant qui en fait moins bien, légèrement sur le côté, parfaitement en ligne. Mais vous voyez, ces petites questions toutes bêtes, c'est les questions que j'avais posées à Théo, parce que au final, eh bien, c'est une question de sécurité simple qu'on ne se pose pas et peut-être qu'il y a un bon conseil à donner à chaque fois.
Alors regardez,
en l'occurrence, qui était de se mettre derrière et avec la roue légèrement décalée.
Bien sûr, tout à fait.
On a encore une réaction que je ne comprends pas, mais je vous le dis avec beaucoup de tendresse. Hein, Noël qui nous dit sur Facebook, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on fait du catastrophisme à longueur de journée dans les médias pour faire culpabiliser, c'est déjà un mode de manipulation d'opinion. Moi, je suis désolée, mais là, aujourd'hui, en parlant de ce livre, on n'est pas en train de manipuler l'opinion.
Je pense pas que Noël est en train de nous dire qu'on fait du catastrophisme ici. Je pense que ce qu'elle dit, c'est que c'est vrai, souvent l'image que l'on donne dans les médias, c'est la Terre va s'effondrer, on est tous foutus, on va tous mourir. Alors que là, on est justement en train de faire l'inverse. On dit non, attendez, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'on a des décès sur la route à vélo, c'est que les gens ont le droit de faire du vélo en sécurité. Et moi, je vous dis la réalité.
Je me suis trompé, pardon Noël. J'ai mal compris votre message.
Avec mes gamins, moi, quand je veux faire du vélo, j'aimerais bien me sentir plus en sécurité parce qu'il y a eu davantage de formation. La formation, c'est pas de la sanction.
Oh, ça c'est joli ça. Ah. Teodoro Bartuccio, fallait bien que ça arrive. Merci beaucoup d'être venu
merci
nous retrouver,
vous,
Théo.
Notre
ami Théo et son vélo. Mon vélo est une vie. Le livre est paru aux éditions JDH Éditions. On le trouve partout ou sur Internet?
On le trouve sur Internet très facilement et on peut le commander chez tout libraire en France.
Okay, super.
Et je voudrais également préciser, si vous le permettez pendant une seconde, que Théo sera présent au Salon du Livre de Paris le samedi 21 mars après-midi pour dédicacer son livre sur notre stand JDH Édition.
Voilà, faudra qu'on le rappelle, c'est dans un mois et demi. Hein, mais très bien, vous avez bien fait de le faire, monsieur.
Tu sais qu'il a des petites roulettes sur son vélo, t'es
Moi, j'ai des petites roulettes dans la tête. Allez, je vous donne rendez-vous, évidemment, samedi prochain pour un prochain rendez-vous de Ça Roule. Toi, on te retrouve tous les matins de la semaine, dans les grands matins.
Ouais, 6h17, ça c'est pour les matinaux. C'est pour ceux qui se lèvent tôt.
Ce soir, je vous donne rendez-vous à partir de 19h15 sur C8 dans la Grande Darka. Il se passe quelque chose dans ma vie, peut-être bien que j'aurais rencontré l'amour. Bah, vous en saurez plus ce soir. Regardez la Grande Darka sur C8.
Je suis là, ça y est, disponible pour
bon
toi.
Bon week-end à tous.